Fils en moins de Zamoujila, enfant des mines et du crayon.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Encore un fiston qui a quitté le continent, le fleuve dans le ventre, du fleuve Congo dans les valises, juste une larme en forme de diamant. Alors peut-être que ça mouille l'âme de l'exilé, mais qu'importe, Fiston Mwanza Mujila n'est pas un poète qui prend l'eau. Bon, c'est vrai que dans ses romans et sa poésie, ça gémit en ré mineur, on s'en contentera en sol majeur, mais je trouve son gémissement tellurique et incroyablement joyeux. Au menu de cette rencontre, en français et peut-être en allemand, une naissance en République démocratique du Congo, de la littérature africaine qu'il enseigne en Autriche, le souvenir de Tram 83, son premier roman, et puis des rêves de diamants, d'alcool et de colle, lire La danse du vilain qui vient de paraître aux éditions Météi.
J'ai pris un taxi, Djibril. Ses mèches lui arrivaient maintenant jusqu'aux fesses. Tu vas où ? Au cimetière. Mes condoléances. Merci, répondis-je. Qui est décédé ? Tu veux le ressusciter ? Donc dans ce pays, on ne peut rien demander à quelqu'un. Donc dans ce pays, on ne peut pas prendre un taxi sans avoir l'impression d'être dans un bureau de police. Djibril s'énerva. Tu fais le zouave alors que ce sont les gamins de ton âge qui ont libéré ce pays. Tu es encore chauffeur alors qu'à ton âge, Lumumba était premier ministre.
Et ben voilà, ça pulse, ça gueule et ça swing. Et ça, c'est pour se dire bonjour, Fiston Mwanza Mujila.
Bonjour.
Avec ce court extrait de La danse du vilain, pour dire d'entrée de jeu que Lumumba, mort assassiné en 61, est donc toujours vivant dans l'esprit des jeunes Congolais.
Au fait, Lumumba demeure un personnage atypique parce qu'il est mort vivant. Mais beaucoup n'en savent presque rien sur les conditions de sa mort. Mais donc c'est une figure qui nous hante parce qu'on n'a pas encore fait le deuil de Lumumba.
Bien que les restes de Lumumba, une dent paraît-il, vient d'être exhumée.
Oui, mais maintenant on peut faire le deuil. Donc on attendait depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis Abraham, depuis Noé.
Donc des traces encore de Congo belge, de Lumumba dans les esprits et de Franco Luambo. Ça c'est pour la musique, histoire de se glisser derrière le bar de vos grands-parents, Fiston.
En fait, moi je suis petit-fils de barman et j'en suis fier. Mes grands-parents étaient barman et puis mon rapport à la rumba est né quand on était enfant, on passait nos vacances chez les grands-parents. Je peux dire qu'on était biberonné à la rumba, donc la rumba elle est en moi vivante.
Biberon et cha-cha-cha pour un sol majeur.
Cha-cha-cha.
peut-être colonisé autant que ce soit par le cha-cha-cha du sorcier de la guitare, le bien nommé Franco Luambo, et ça se passe dans l'ensol majeur d'un auteur congolais un peu amoureux des sorciers, Fiston Mwanza Mujila.
Oh.
Oh, comme oiseau migrateur.
Oui, parce qu'on va découvrir que vous-même, vous êtes un peu oiseau migrateur, mais c'est peut-être dû au fait que la génération de vos grands-parents ait migré au moment de la colonisation belge.
Oui, oui. Je suis né à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Et mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres viennent de la région du Kasaï. Pendant la période coloniale, on avait besoin d'une main d'œuvre abondante. Et du coup, une grande partie de la famille a migré vers le Katanga. Mais mes grands-parents ne voulaient pas travailler dans les mines. Et donc mon grand-père a eu à travailler comme homme à tout faire chez des Blancs, chez des Occidentaux, à Lubumbashi, avant de monter son bar.
Pour Julian et Athanase, hein, ce sont les prénoms de vos grands-parents.
En fait, le grand-père, c'est Athanase Mwambakabuya et ma regrettée grand-mère, Julienne Mwamwanza.
Elle vous a raconté des histoires, mais pas forcément l'histoire coloniale. C'était tabou.
C'était tabou à la maison, l'histoire coloniale. Elle n'en parle pas. Le grand-père, quand tu lui posais deux, trois petites questions, et puis elle te disait « va me chercher de l'eau à boire », c'était tabou et je n'ai jamais tiré rien de ces deux-là. Et là, j'ai beaucoup de regrets parce qu'ils sont plus de ce monde, mais ils sont quelque part. Parce que dans ma tradition, quand une personne décède, il devient un mukishi, donc un esprit. Quand j'ai des petits pépins, au lieu de m'adresser directement au bon Dieu, Vijimukulu, Vijimukulu Achame, Vijimukulu Achamwena, donc je m'adresse à Julien Mwamwanza parce qu'ils sont des mukishi, des esprits.
Peut-être que vous pourriez les interroger, ces esprits. On va voir ça pour un sol majeur. En tout cas, histoire coloniale, forcément tabou. Mais on sait aujourd'hui, la colonisation belge a été rude. Une certaine Alice Siley Harris, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est une jeune Anglaise venue au Congo y installer une mission protestante, découvre en 1915, appareil photo en main, les horreurs commises par les caoutchoutiers belges sur les indigènes. Elle raconte.
One Sunday morning, I was alone.
Un dimanche matin où j'étais seule,
and my native boy came to tell me.
Mon boy est venu me prévenir.
And a native had gone down the pass at the back of the station.
Qu'un indigène m'attendait à l'arrière de la mission.
Carrying the hand and foot of his little girl.
Il portait la main et le pied de sa petite fille.
Wrapped up in a plantain leaf.
Enveloppé dans une feuille de bananier.
I got him to sit on the top step of the.
Je l'ai fait asseoir sur les marches de la véranda.
And he spread out the plantain leaf with the hand and foot.
Et il a ouvert la feuille de bananier contenant la main et le pied.
And I took the photograph.
Je les ai pris en photo.
But there it was, as clear as possible, the hand and foot of his little girl.
La main et le pied étaient là, sous mes yeux.
La petite fille assassinée et démembrée s'appelle Boali. Les mutilations sont alors monnaie courante au Congo. Quand les chefs de poste blancs envoient la troupe tuer les villageois pour l'exemple, ils demandent aux soldats de ramener une main humaine par habitant assassiné. Préférant garder les balles pour braconner en chemin, les tueurs se contentent souvent de couper la main ou le pied de la victime.
Extrait en sol majeur de l'excellent film documentaire « Décolonisation » de Pierre Singaravelu, Karim Misquet et Marc Ball, où l'on peut comprendre évidemment, hein, Fiston Mwanza Mujila, pourquoi cette histoire coloniale était taboue auprès de vos grands-parents. Mais maintenant, on va dire que certaines archives sont exhumées, que certains documentaires racontent et mettent des mots sur ces silences. Est-ce que vous avez pu reconstituer quelque chose de l'histoire ou du statut de vos grands-parents pendant la colonisation ?
C'est assez difficile parce que mes grands-parents appartiennent à cette tradition orale.
Pas de photos non plus, par exemple.
Mais de photos, oui, mais c'est fragmentaire. Mais heureusement qu'avec l'ouverture des archives, on pourrait recoller les morceaux. Ce qui se passe, c'est que nous, en tant que Congolais, on a au moins 3 deuils à commémorer, à pleurer ou à épuiser. Il y a le tabou de la colonisation belge, il y a le tabou de la période de M. Mobutu, le tabou de la période de Kabila père. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire un pays sans la justice, sans faire un travail de mémoire. Bon, mais moi, je salue la position belge qui est de nous restituer Lumumba, parce que pour moi, ce n'est pas une dent. C'est Lumumba qu'on nous restitue. Là, on peut faire le deuil. Mais aux Congolais aussi, parce qu'il n'y a pas que la Belgique qui doit faire le premier pas. En tant que Congolais, nous-mêmes, on doit d'abord prendre en charge notre propre histoire. Tout le monde parle de Lumumba, mais combien
ça... prendre en charge, ça veut dire quoi?
Prendre en charge, c'est-à-dire déjà, non pas seulement chanter du matin au soir Lumumba, mais donner à Lumumba sa vraie place. Les gens parlent de Lumumba, on ne sait pas où Lumumba a été enterré. À la tombe de Lumumba, il n'y a pas de mausolée.
C'était une volonté des autorités.
C'est une volonté. Oui. C'est pourquoi se prendre à change. En fait, il ne faut pas se limiter à Lumumba, parce que Lumumba n'est pas mort seul. Il est mort avec d'autres compagnons. Il y a beaucoup de martyrs du temps de Lumumba jusqu'à ce jour.
Fiston, le fait que le roi des Belges, le roi Philippe, ait adressé une lettre au président congolais Tshisekedi, où le roi donc présente ses plus profonds regrets pour les blessures du passé, mais pas d'excuses. Est-ce que ça aide au travail de deuil pour les Congolais?
Donc, on n'a que cela, mais on a besoin d'une sincérité. Et on ne sent pas cela, parce que c'est à moitié. Nous, on a besoin des excuses, on a besoin d'une réparation. Et quand je parle de réparation, on n'a pas besoin de sous, on a besoin de 50 centimes symboliques. Mais il faudrait dire qu'en tant que Congolais, on doit faire aussi ce travail-là. Et je pense que d'ailleurs, le fait qu'il y ait ce tabou-là sur l'histoire coloniale belge, qui fait que la période de Mobutu est passée sous silence, ou celle de Kabila père.
Alors vous, Fiston Mwanza Mujila, vous êtes né donc à Lubumbashi en 81, donc dans le Zaïre de ce fameux Mobutu. Quelle a été votre enfance? Vous qui vous définissez comme un enfant de la mine.
Je me définis comme enfant de la mine. J'ai une enfance heureuse parce que mes grands-parents et mes parents ne voulaient pas qu'on soit des ouvriers, qu'on travaille dans la mine. Donc, ils ont fait de leur possibilité pour que nous puissions bénéficier d'une bonne éducation.
Vous avez travaillé ou pas dans la mine?
Je n'ai pas travaillé dans la mine, mais je viens d'une ville minière. Et quand on vient d'une ville minière, tout est lié à la mine, à la Gécamine. À l'époque coloniale, l'administration coloniale avait monté cette société magnifique, imposante, l'Union minière du Haut-Katanga, qui nourrissait le pays. Et même aujourd'hui, on sent à Lubumbashi, quand le cuivre est en chute libre, on sent cela dans l'assiette. Et donc moi, je suis fier d'être enfant de la mine, parce qu'enfant de la mine, c'est aussi une identité. On a notre rapport au travail, un rapport à la langue, un rapport à l'exil, mais aussi un rapport à la notion de mixité, de cosmopolitisme, parce que les gens arrivaient de partout. Pour Lubumbashi ou même Kinshasa, d'une certaine manière, c'était déjà, de capitale de tout le monde. À Lubumbashi, à l'époque coloniale, on en trouvait des Grecs, de Polonais, de Portugais, de Belges, de Français. Et donc, c'est pourquoi je suis fier d'être enfant de la mine.
D'autant que vous êtes doublement un enfant de la mine aujourd'hui, puisqu'en prenant le crayon, vous racontez un Lubumbashi chaotique, où l'enfance se régule dans la rue et où les rêves des Aïrois s'exilent, comme vous dites, et se perdent dans les mines de Kafunfu en Angola.
L'exil libère et déleste en définitive de la pesanteur des traditions et du corset étroit que représentent les acquaintances. Il permet à l'individu de soupeser toute la porosité de son existence, lui donne une fois dans sa vie la possibilité d'être responsable de ses actes. Et cela, l'Angola l'a démontré à maintes reprises, car c'est en ton nom et non celui de ton oncle que tu descends à 10 mètres sous terre. C'est en ton nom que tu enfreins les lois et les règlements intérieurs imposés par la police de mine et ses auxiliaires. C'est en ton nom propre et non celui de ta généalogie que tu tentes ta chance de repartir au Zaïre, la panse remplie de pierres. C'est toi-même qui payes les pots cassés d'un éboulement, d'une rafle, d'un rap systématique des diamants trouvés à la sueur de ton front ou d'une quelconque skoumoune. À table, attendre religieusement que les anciens ouvrent le bal pour grignoter son premier morceau, jouer le garçon de course à longueur de journée, se faire engueuler sans glisser un mot. Ces choses-là ne prenaient pas l'Onda Norte.
Et non, le monde est autre dans ces mines du Cafounfou. Vous nous faites descendre avec cet extrait pour en sol majeur de la danse du vilain, Fiston Mwanza Mugila. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est un autre monde que vous décrivez ou un sous-monde. Quel est dans votre roman ce peuple, de ce que moi j'appelle ce sous-monde?
Bon, il faut dire que dans les années 80, 70... l'influence de la Belgique, bien
oui,
entendu.
Ça s'entend.
Et puis donc, il y a eu beaucoup de jeunes Congolais qui ont tenté, il faut souligner ce mot-là, tenter leur chance, la chance, en Angola, parce qu'à l'époque, l'Angola était en pleine guerre civile, mais ils ont tenté leur chance d'aller en Angola, histoire d'attraper, de chasser, entre guillemets, les diamants. Et donc, c'était des jeunes qui étaient au chômage. Et puis, l'Angola était une alternative à l'Europe. Il y a ceux qui se sont enrichis et puis ceux qui ont laissé leur peau.
Oui, c'est ça. Ça bascule, hein, cet univers des mines, entre un rêve d'Eldorado et un mouroir.
Oui, un mouroir. Et ces gens-là constituent à eux seuls une population ou même une ethnie, parce qu'ils sont désignés par le nom de Bana Lunda. Et Bana ou Bana signifie enfant, c'est-à-dire qu'ils forment à eux seuls une généalogie, c'est-à-dire un peuple à part, parce qu'il faut être courageux pour se rendre dans un pays en guerre civile. Et la plupart sont des héros mythiques, parce qu'il y en a qui ont échoué, et il y en a qui sont rentrés au pays avec beaucoup de sous.
Oui. Vous parlez d'ethnie, pour évoquer ce peuple des mines, et vous disiez tout à l'heure, Fiston, aussi, qu'il y a une identité inhérente à cet univers des mines, parce que ceux qui viennent y travailler ont un rapport au travail spécifique et un rapport à l'exil aussi spécifique, c'est-à-dire...
Mais il faut d'abord dire que la région angolaise de Lunda Norte appartenait à l'empire Lunda avant la période coloniale. C'est-à-dire qu'avec la colonisation, on se retrouvait avec trois peuples. Peuple Lunda, en Zambie, au Congo et en Angola. Et pendant la période coloniale, il y a des pratiques initiatiques qui supposaient l'entrée de jeunes dans l'âge adulte. C'était par exemple le Mukans, qui était une forme de circoncision, ou le mariage, qui symbolisait l'entrée à l'âge adulte. Et maintenant, l'Angola, dans la période postcoloniale, est devenue une forme de rite de passage, parce que ces jeunes gens qui vont en Angola, ils vont là-bas un peu comme un exil, mais en même temps comme chez eux, parce qu'ils brisent les frontières coloniales. Et puis, quand on est en Angola, c'est un pays en guerre, donc il faut s'inventer un monde, qu'on se constitue une identité pour s'en sortir.
Alors, vous faites de ces mines de Cafounfou un roman, donc une cour des miracles, avec des personnages hauts en couleur. Il y a notamment cette Chiamwena, surnommée la Madone. Elle s'auto-proclame doyenne du monde, elle affirme être née... en 1885, voire en 1492.
Ouais, pour moi, c'est important d'avoir cette figure. J'ai une passion pour les grandes dames. J'ai une passion pour les femmes fortes. Beaucoup d'admiration.
On est au-delà de la femme forte, là.
Pour les reines. Et pour moi, c'était ce personnage-là qui ressemble beaucoup à ma grand-mère. J'ai jamais vu ma grand-mère sourire. C'était une femme puissante, une femme forte, à tel point que pour moi, aujourd'hui, avec recul, je me dis que ma grand-mère était un Mokishi, un esprit, avant même sa mort.
Est-ce que cette déesse des décombres, votre Chiamwena, qui est surnommée la Madone, est-ce que c'est un esprit? Elle a une dimension un peu fantastique. On ne sait pas si elle vient d'un monde d'envoûtement.
Mais moi, je dirais que c'est Dieu. Elle est Dieu, parce que dans la culture Luba, Dieu emprunte aussi des noms de femmes. On l'appelle par exemple Chiamwena Mama Kaniki, Dieu de la mère Kaniki, parce que on suppose que Dieu prend aussi les qualités des personnages mythiques, de personnages célèbres. Donc pour moi, c'est un esprit, mais en même temps, c'est un personnage de chair et de sang.
Mais il y a une dimension de toute façon mystique dans votre roman. Je pense à un autre personnage qui s'appelle Ngouji et qui lui, à un moment donné de sa vie et de sa construction d'enfant de la mine ou d'enfant de la rue, pénètre un monde parallèle, voire envoûté.
Mais je pense qu'on est... chacun a beaucoup de mystères en lui. Les anciens disent donc la création est incomplète parce que Dieu continue à créer des esprits. Nous, on descend des Vijumu, comme on dit. Il faut juste ouvrir les yeux. Mais en retournant à la littérature, ces personnages-là me permettent de jouer avec la langue, me permettent d'écrire autrement l'histoire du Congo. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé dans ce pays, depuis le roi Léopold II jusqu'à ce jour, il y a beaucoup de violences qui sont tellement vastes qu'il n'y a pas de mots pour parler du Congo. Il y a beaucoup de tabous. L'histoire, elle fascine, mais en même temps, elle vous intimide, même quand vous êtes écrivain.
En tout cas, votre plume n'est pas du tout timorée, hein, fiston. Parmi les personnages qui peuplent votre sous-monde, on peut évoquer évidemment trois déshérités, mais il faut lire. Il y a d'abord un certain Molakissi, au physique de vilain. Et puis, il y a Sanza, c'est son ami. D'ailleurs, j'ai un petit coup de cœur pour lui. J'aime bien sa position par rapport au monde, hein, parce que lui, au bercail douillet, eh bien, il préfère les nuits dehors, entre la colle et les menaces militaires. C'est ce qu'il explique d'ailleurs à sa mère, qui le supplie de rentrer à la maison.
Je ne me sens vivre nulle part ailleurs. Tu te suicides pour rien, répondis-je à ses supplications. Elle continua à me harceler, à déployer des raisons débiles pour un retour au bercail. Elle évoquait, avec beaucoup de subtilité, la reprise des études, le petit déjeuner, le repas du matin et du soir, la bibliothèque familiale, les vêtements propres, le lit mousseux, un voyage à Kinshasa, l'argent de poche, la télévision, les soins de santé. Je me mis à rire très fort lorsqu'elle énuméra ses salades. Rien ne peut compenser la liberté. Ni la mangeaille, ni l'argent de poche, ni la télévision. Dehors, j'étais mon propre père, ma propre mère, mon propre Dieu, mon propre ancêtre, mon propre président du Zaïre.
Fiston Mwanza Mujila, j'aime beaucoup ce passage parce que vous renversez finalement notre regard, et sans doute regard d'occidental, sur les déshérités. Hein, pour Sanza, la rue n'est absolument pas une malédiction, c'est un choix.
C'est un choix parce qu'il y a des enfants qui décident de partir sans choix, mais qui a un choix qui est provoqué parce que tout simplement la réalité socio-économique fait que les parents se retrouvent au chômage et puis les enfants quittent la maison. Mais ces enfants ont beaucoup d'humanité, beaucoup de courage parce qu'il y en a qui
ressources.
Il y en a qui arrivent à se construire et se construisent par la littérature parce que chaque enfant, quand il décide de faire de la rue son appartement, sa maison, commence à créer sa propre identité, à se définir autrement, à se construire un récit de vie qui est fictionnel. Et tous les enfants de la rue ont presque le même récit de vie. Ils se considèrent comme étant les ancêtres parce que...
Mais ils se fabriquent aussi leur propre grille de lecture du monde parce que dans ce Lubumbashi totalement chaotique, le voleur qui devient président du Zaïre rebaptise par exemple justement ceux que je viens de nommer les voleurs, des coopérants français.
C'est ça. Parce que quand on tombe dans la rue, ils se prennent de noms mythiques, de noms d'acteurs de cinéma, d'ancêtres, Commando, Rambo 3. Donc voilà, ça participe à leur
mythologie.
À leur mythologie. Parce qu'il n'est pas permis à tout le monde de vivre dans la rue. Le froid, la poussière, la faim, les séances d'école.
Les séances de colle. Et pas d'école.
Les séances. les séances.
C'est pas les mêmes séances.
Hein. Les séances de colle.
Voilà. Mais est-ce que finalement c'est une ode au système D, ce roman? Le système D qui parcourt, on le sait, les dictatures et les époques.
Moi, c'est beaucoup un plaidoyer pour cette cause-là. Dans une ville comme Kinshasa, on en trouve plus de 20 000 enfants qui vivent dans la rue. C'est un plaidoyer pour l'enfance, parce que avec nos différentes guerres, beaucoup ont été enrôlés dans l'armée. Donc, pour moi, c'est un regard sur ce pays, mais un regard tendre, parce que la littérature doit rester littérature.
Qu'est-ce que vous appelez la danse du vilain?
La danse du vila, c'est la danse qui exécute ceux qui ont de l'argent. C'est une danse fictive qui est jouée chaque nuit dans un bar, le mambo de la fête. C'est une danse qui célèbre l'argent.
Sinon, on ne serait pas à Lubumbashi si ça ne dansait pas notamment rumba. Alors, votre écriture, on peut en dire un petit mot, elle est un peu à l'image de ce Lubumbashi que vous décrivez. Il n'y a pas un millimètre de respiration entre poussière, gadou, obsession. Vos personnages ont beaucoup d'obsessions en tête, obsessions sanguinaires, obsessions de belligérants, de menaces de toutes parts, et puis défenestration en tout genre. C'est un mot qui est utilisé de façon très spéciale hein, dans votre phrase. Dans quel état vous êtes quand vous écrivez, Fiston ?
En fait, il faut souligner d'abord que je ne suis plus un auteur francophone, je suis un auteur de langue française, parce que je ne pratique pas le français au quotidien. En fait, j'écris en français, mais le français, je ne l'utilise que quand j'écris ou quand j'enseigne à l'université. Et donc, quand j'écris, je suis obligé d'être dans un conditionnement. Par exemple, j'ai beaucoup de cahiers d'écoliers dans lesquels j'écris les mots de la langue française pour ne pas perdre la langue. Mm-hmm. Parfois, quand je n'ai pas d'inspiration, ce que je fais, c'est que je peux prendre un livre de Camus ou de Sartre ou d'importe quel écrivain et je recopie pour ne pas perdre la langue. C'est-à-dire qu'écrire en français, pour moi, suppose une immersion, suppose un voyage, parce que le français est devenu comme je...
De revenir dans la peau du français.
Oui, de la langue.
De la langue.
Et donc, le français est devenu pour moi comme un jardin secret. Et donc, il me faut ce rituel-là. En tant qu'écrivain, moi, avant d'écrire, je dois prendre un bain chaud.
Oui.
Avant d'écrire, c'est surréaliste. Mais pour moi, ça m'aide à être dans ce conditionnement-là. Et je me suis constitué une langue qui est à moi. Et j'écris dans cette langue-là. Et défenestrer, défenestration est l'un des deux mots que je chéris.
Entre vos rituels de bain et de lecture camusienne.
Je m'entraîne dans quel sens ?
Un mot qui nourrirait
Je chante beaucoup. Quand j'écris, je chante beaucoup. Et je ris beaucoup aussi quand j'écris. Pour moi, le rire fait partie de mon écosystème, de mon environnement. Je chante beaucoup, je ris beaucoup.
Ça s'entend hein, dans vos lectures. Parce que, au-delà des auteurs classiques africains que vous avez étudiés, votre écriture, vous me l'avez confié, s'inspire d'un genre littéraire, d'un genre, disons, oral plutôt,
oui,
appelé Kassala, qui vient de l'ethnie Luba du Katanga. Alors, qu'est-ce que c'est que le Kassala, exactement ?
Le Kassala, c'est un genre qui vient de l'ethnie Luba du Kasaï. Mais on trouve le même genre sous d'autres appellations dans d'autres ethnies, chez d'autres peuples au Congo. Le mot ethnie me fait un peu mal au dos. Et donc, le Kassala consiste en une forme de poésie, de liberté, de louange et d'auto-louange. On chante, on psalomodie la mère, le père, c'est-à-dire qu'on psalomodie des personnages réels, fictifs ou même historiques. Par exemple, si je fais mon Kassala pour moi-même, je peux me dire je suis Fiston moins en Mujida, moins en Congolo, moins en Kangi, moins en Mbala. Je viens de ce pays, le Congo. Donc, c'est-à-dire le Kassala, c'est une forme d'auto-louange. Mmh. Et je m'inspire de ce genre littéraire qui consiste à de répétitions. Et à travers ces répétitions, on en arrive à une musicalité.
Bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire ? On va se défenestrer un poème inspiré du Kassala avec votre voix. C'était lors du Festival de Poésie de Rotterdam. Un poème intitulé...
Kassala pour moi-même. J'ai décidé d'être heureux, de danser la rumba jusqu'à l'usure, de reprendre tous mes noms bricole longtemps, de demeurer l'enfant de la mine et du chemin de fer, l'exil familial épousant la locomotive, l'exil dans l'œuf, l'éternelle solitude. J'ai décidé d'être insolent et désagréable, de cracher dans la soupe de ceux qui arrachent le don à la vie, d'épicer sur leur prétendue bonne foi, de glouser en guise d'espérance et de me repentir par la suite auprès de l'esprit aîné. Combien de temps déjà résisteront-ils? Déjà, ils sont faits de ce pays à mourir. J'ai décidé de formuler de rêves aussi vastes, aussi colorés, aussi grandiloquents que l'espérance. De rêves somptueux!
Donc un cassala pour un sol majeur et en forme d'auto-célébration, hein, fiston Mwanza Mujila.
Oui, c'est ça, parce qu'on peut dire, par exemple, Mwanza, par exemple, c'est le diminutif de Mwanza en congolou. Et donc, mon nom, Mwanza, c'est aussi l'arc-en-ciel. Et donc, quand j'étais gamin, ma mère ou les membres de la famille m'appelaient Mwanza en congolou, Amoumaï, Anavoila Bilamba, 12 heures. Mwanza en congolou, Amoumaï, Anavoila Bilamba, 16 heures. Mwanza en congolou, Amoumaï. C'est-à-dire que l'arc-en-ciel s'habille de ce plus beau vêtement et s'exhibe. L'arc-en-ciel s'habille de ce plus beau vêtement et s'exhibe à midi. L'arc-en-ciel s'habille de ce plus beau vêtement et s'exhibe à 17h. L'arc-en-ciel, Mwanza en congolou, Amoumaï, Anavoila Bilamba, 12h. Et ça fait partie aussi de mon kassala ou de mon nom.
Alors, dans votre kassala, justement, on note évidemment la fin des phrases hein, qui sont très très appuyées comme ça. Il y a tout un arsenal, j'imagine, de grammaire autour de ces incantations, de cette forme d'incantation. Mais quel sens donner à ce train poétique, le kassala, que vous nous servez en français?
Mais c'est dire, quand je fais en français, je suis dans une sincérité. Cette sincérité parce que un créateur de kassala, c'est comme un petit esprit. Mais quand je fais mes performances avec des musiciens, je dis aussi mon kassala en tshiluba.
Donc, pourquoi c'est important pour vous de transmettre cette rhétorique kassala?
Mais parce que déjà, ça a un pouvoir thérapeutique pour moi-même, déjà. Et aussi, le kassala me permet de célébrer le monde, la vie, le soleil, les étoiles, les planètes.
Sinon?
Pour moi, dire le kassala me réconcilie avec la terre, avec le monde.
Les Occidentaux doivent vous paraître tristes hein, en termes de célébration.
Ah non, parce que moi-même, je suis européen, congolais, mais je pense que j'ai plusieurs identités.
Vous savez, rester donc cravaté.
Oh non.
Vous manque la cravate aujourd'hui d'ailleurs.
There's a train that comes from Namibia and Malawi. There's a train that comes from Zambia and Zimbabwe. There's a train that comes from Angola and Mozambique. From Lesotho, from Botswana, from Swaziland. From all the hinterlands of southern and central Africa. This train carries young and old African men who are conscripted to come and work on contract in the gold and mineral mines of Johannesburg and its surrounding metropoli. 16 hours or more a day for almost no pay. Deep, deep, deep down in the belly of the earth, when they are digging and drilling for that shiny, mighty, evasive stone, or when they dish that mishmash mash food into their iron plates with the iron shovel, or when they sit in their stinky, funky, filthy, flea-ridden barracks and hostels, they think about the loved ones they may never see again because they might already have been forcibly removed from where they last left them, or wantonly murdered in the dead of night by roving and marauding gangs of no particular origin. We are told. They think about their lands and their herds that were taken away from them with the gun and the bomb and the tear gas and the Gatling and the cannon. And when they hear that choo-choo train, a chugging and a pumping and a smoking and a pushing and a pumping, a crying and a steaming and a chicken and a wah, wah! They always curse and they curse the coal train. The coal train that brought them to Johannesburg.
Magnifique Hugh Masekela pour un sol majeur, trompettiste sud-africain qui a tiré sa révérence en 2018. Est-ce qu'il y a un lien, fiston Mwanza Mujila, entre son train musical et votre kassala?
C'est-à-dire que quand on parle de mine, on ne peut pas parler de mine sans parler de train. Et donc, Hugues Masekela parle de ce train qui traversait l'Afrique australe pour acheminer les mineurs, les creuseurs dans les mines de Johannesburg. Et donc, pour moi, quand j'écoute Masekela, c'est l'histoire familiale parce que les gens de mon peuple ont été transportés pour travailler dans les mines du Katanga. Mais j'ai beaucoup aussi d'affinité avec Hugues Masekela parce que c'est un modèle et pas beaucoup de l'héritage. Et donc, mon rapport à l'héritage ancestral, à la tradition africaine, et soutenu aussi par des figures comme Hugues Masekela qui prêchait ce retour aux sources.
Y a-t-il sur votre terre d'accueil un coin qui vous rappelle votre terre natale?
Le fleuve. Je vis à deux pas d'un fleuve, le fleuve Mour. J'ai l'habitude chaque jour d'aller jeter un coup d'œil dans ce fleuve qui me rappelle le Congo.
C'est pas le même fleuve Congo quand même.
C'est pas le même fleuve, mais ça me console.
C'est pas pareil ça. Puis il y a les larmes. Et c'est un bout de fleuve, les larmes.
Oui, mais voilà.
Vous êtes fâché, vous, avec les larmes, hein?
Non.
Vous avez fait des études de lettres à Lubumbashi, fiston, puis vous êtes venu en Belgique pour continuer vos études, et puis en Allemagne en 2008, et vous voilà aujourd'hui en Autriche. Mais dans quelle Autriche vous vivez?
Au fait, j'ai fait un passage en Belgique pour une résidence d'écriture, et là je vis en Autriche. Et bien, je vis dans deux pays en Autriche, et dire qu'il y a cette Autriche actuelle, mais il y a l'autre Autriche qui n'existe que sur papier, donc l'Autriche de la littérature, de la musique classique.
Celle de Vienne.
De Vienne.
Donc c'est pas l'Autriche réelle et incarnée qui...
Mais dans le deux.
Dans
le deux, parce que je vis à Graz, et à Graz, je dis toujours à mes potes que dans cette ville, il y a deux bourgmestres, il y a moi, et le bourgmestre officiel.
Rien
parce
ça.
Que quand je suis arrivé en Autriche, je sortais beaucoup et je connais beaucoup de monde. Pour moi, c'est ma deuxième ville de naissance.
Mais pourquoi l'Autriche? Pourquoi vous atterrissez là-bas?
Parce que j'avais reçu une bourse d'écriture et puis je suis retourné en Allemagne et puis je suis reparti m'installer.
D'accord, on va se contenter de cette petite réponse. En tout cas, pour vous, écrivain francophone africain, il vous fallait créer une sorte de filiation littéraire. Et c'est auprès d'une certaine Ingeborg Bachmann que vous l'avez trouvée, elle qui écrit en 1953 ces vers. Des jours plus durs approchent.
Es kommen härtere Tage.
Le temps en sursis irrévocable apparaît à l'horizon.
Die Aufwiderruf gestund der Zeit wird sichtbar am Horizont.
Il te faudra bientôt lasser tes chaussures et renvoyer les chiens dans les fermes des marais littoraux.
Bald musst du dann schnurren und die Hunde zurückjagen in die Marschhöfe.
Car les entrailles des poissons ont refroidi dans le vent.
Denn die Eingeweide der Fische sind kalt geworden im Wind.
La lumière des lupins brûle chichement.
Ärmlich brennt das Licht der Lupinen.
Ton regard suit la trace dans le brouillard.
Dein Blick spürt im Nebel.
Le temps en sursis révocable apparaît à l'horizon.
Die Aufwiderruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont.
Ta bien-aimée de l'autre côté s'enfonce dans le sable.
Drüben verstinkt dir die Geliebte im Sand.
Il monte autour de ses cheveux flottants.
Steigt ihr wehen des Haar.
Il lui coupe la parole.
Es fällt ins Wort.
Il lui enjoint de se taire.
Befiehlt ihr zu schweigen.
Il la trouve mortelle et disposée à l'adieu après chaque étreinte.
Findet sie sterblich und willig dem Abschied nach jeder Urmahnung.
Ne regarde pas en arrière.
Sieh dich nicht die Schuhe
Lasse tes chaussures.
Schnur dein Schuh.
Renvoie les chiens.
Jag die Hunde zurück.
Jette les poissons à la mer.
Wirft die Fisch.
Éteint les lupins.
Loge lupinen.
Des jours plus durs approchent.
Es kommen härtere Tage.
Alors il paraît en sol majeur qu'entre ce poème d'Ingeborg Bachmann et donc qui s'appelle Le temps en sursis et votre poème Solitude, fiston, il y a une certaine similitude.
Ouais,
parce que... On vous écoute d'abord.
Je ne suis pas le premier à quitter le continent. Mon exil ne sera pas l'exil d'une race Mon exil ne sera pas l'exil d'un peuple. Mon exil ne sera pas l'exil d'une famille. Mon exil ne sera pas l'exil d'un pays. Mon exil ne sera pas l'exil d'une généalogie. Même si je crève ce matin à Minsk ou à Graz, je ne vois que ma mère, seule, languir et ses larmoyer. Le fleuve Congo continuera à couler. Les trains marchandises continueront à circuler. Je ne suis pas le premier. Je ne suis pas.
Alors, fiston Mwanza Mojela, comment est-ce que vous expliquez et de quelle fraternité plutôt vous parlez, fraternité de regard sombre entre vous, auteur poète congolais exilé, et cette poétesse autrichienne Ingeborg Bachmann?
Oui, il y a déjà cette fraternité thématique chez Ingeborg Bachmann. Il y a cette image de la mort qui est presque omniprésente. Il y a des images apocalyptiques, de fulgurances apocalyptiques. Je me situe dans sa généalogie, mais aussi parce qu'elle, elle appartenait à un mouvement littéraire appelé en allemand Groupe 47, Groupe 47. C'est-à-dire, après la Seconde Guerre mondiale, il y a des écrivains de langue allemande se sont mis ensemble pour penser la question de la langue, de l'écriture, le rapport à leur pays, à la politique. Et le Congo d'aujourd'hui, de ce jour, ressemble étrangement à l'Autriche ou à l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Comme cette Allemagne ou cette Autriche, tout est démoli. Et donc pour moi, comme écrivain, je suis dans ce lien de la littérature de ruine, parce que la langue ou la littérature n'ont pas les mêmes valeurs quand on vient d'un pays comme le Congo. Et donc la langue devient une planche de salut.
Et d'ailleurs, vous dites que c'est un paradoxe que d'être congolais et auteur.
Oui, je pense que c'est un paradoxe parce que le Congo aujourd'hui traverse une crise majeure. Il y a l'est du pays qui connaît depuis une vingtaine d'années une guerre sanglante. Donc je me dis, en tant qu'écrivain, est-ce que ma place se trouve dans mon bureau ou dans ce pays-là? Donc voilà.
Donc puis, la question du rôle de l'intellectuel, justement, soit plutôt sartrien, soit plutôt camusien, fait que vous avez tranché?
Mais moi, je préconise l'engagement. D'engagement dans ce sens. C'est pourquoi ce livre, ce sont de plaidoyer pour un monde meilleur.
Est-ce que, en quittant le continent pour la vieille Europe, la question identitaire s'est posée à vous, la peur de perdre quelque chose et d'épouser autre chose, de devenir autre?
Pas du tout, parce que mes racines sont profondes. Donc, je porte mes racines partout où je vais. Il n'y a jamais eu cette peur parce que j'ai rentré au Congo, mais parce que je porte aussi ce pays-là chaque jour. Pour moi, c'est même bénéfique de pouvoir avoir ce racine-là et s'ouvrir à d'autres racines, à d'autres cultures.
Puis les esprits veillent.
Les esprits veillent et je demeure toujours moins en Congolo. L'arc-en-ciel, il pointe son nez dans tous les pays.
Une dernière question. Quand vous écrivez en français, vous avez un rituel, celui de vous glisser dans un bain chaud. Et quand vous écrivez en allemand?
Quand j'écris en allemand, c'est un travail qui me... En allemand, j'ai aussi un cahier, des cahiers dans lesquels il y a des mots que je note. Mais quand j'écris en allemand, je suis beaucoup dans l'émerveillement. Parce que je vis en Autriche depuis 11 ans, 12 ans, dans l'espace germanophone. Je suis comme un gamin de 12 ans. C'est-à-dire que je suis émerveillé devant les mots. Devant
Christophe Colomb, vous découvrez.
Je découvre, mais en même temps, je dirais l'émerveillement, l'éblouissement. Parce qu'un enfant de 3, 4 ans, 5 ans peut jouer avec n'importe quoi, avec un ballon, avec un stylo. Et donc, je suis dans cet émerveillement. Et mes textes en allemand sont des géographies, parce qu'on en trouve des mots du dialecte autrichien, des mots de l'allemand de Berlin, comme Birchen. C'est un texte qui est pluriel, vraiment une forme de palimpeste, parce que c'est cet avantage-là de ne pas être lié à l'histoire. Je construis cette langue par rapport à ma sensibilité, à ma naïveté, à cette fulgurance, cette insolence de jeune gamin.
J'aime beaucoup votre chemise bleue rayée et vos dreadlocks, cher fiston. Merci en tout cas d'être passé nous poétiser la conversation en sol majeur. Je rappelle La danse du vilain aux éditions du Métayer. Et c'est un sol majeur puisque vous êtes un auteur congolais engagé du côté camusien. C'est un en sol majeur qui se referme avec la voix d'un Camus éclaireur.
Le rôle de l'écrivain ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art. Toutes les armées de la tyrannie, avec leurs millions d'hommes, ne l'enlèveront pas à la solitude, même et surtout s'ils consentent à prendre leur pas. Mais le silence d'un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer l'écrivain de l'exil, chaque fois du moins qu'il parvient, au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence et à le relayer pour le faire retentir par les moyens de l'art.
En podcast, éventuellement la nuit ou dans un bain chaud, sur Pure Radio. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain avec la reine du podcast, une des reines du podcast, j'ai nommé Alexia Senna. À demain.